Bonjour à toutes et à tous, René Lavergne avec vous à l'antenne de Radio Campus 106,6 FM. Chaque mercredi à 16h, vous avez rendez-vous avec l'Université de Lille et cette émission Campus Lille Info qui lui est dédiée. On va parler aujourd'hui d'informatique au féminin avec Madame Maude Pupin qui est maître de conférence en informatique à l'Université de Lille. Bonjour Madame Pupin.
Bonjour.
Alors, vous avez une mission très particulière dans le cadre de l'ensemble de vos activités. Peut-être aussi, vous parlerez de ce labo Cristal, CNRS, INRIA, Lille-Nord-Europe, auquel vous êtes intégré. Et là, vous avez une mission très particulière pour faire naître des vocations et des compétences chez les jeunes filles.
Exactement. Donc en fait, cette mission, je l'ai reprise il y a quelques mois à la suite de Laetitia Jourdan, qui est professeure d'informatique dans le même laboratoire et qui a lancé en fait en 2013-2014 cette initiative d'essayer de promouvoir l'informatique auprès des jeunes filles. Parce que le constat était fait, et ce constat a été même partagé avec des entreprises, qu'il y avait peu de femmes dans les métiers de l'informatique et dans les filières de formation informatique.
Alors on imagine que quand le constat est fait, ça veut dire qu'il y a une longue période avant qui n'a pas permis à ces jeunes filles d'avoir ces compétences, les compétences requises pour ces métiers, notamment de l'informatique.
Exactement, et c'est même presque pire que ça, je pourrais dire. C'est-à-dire qu'au début de l'informatique, la féminisation, enfin, il y avait un pourcentage de femmes parmi les informaticiens qui étaient de l'ordre de la moitié. Et puis, au fur et à mesure que l'informatique a pris de l'ampleur, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le nombre de femmes est resté constant et le nombre d'hommes a augmenté avec l'augmentation du nombre de personnes dans ces métiers. Et du coup, la proportion de femmes n'a pas cessé de diminuer.
Est-ce qu'on s'est penché sur les raisons de ce déficit ?
Oui, il y a eu des études qui ont été faites. Il y a certaines études qui pensent que c'est peut-être dû à l'arrivée du PC, de l'ordinateur en fait dans la maison, parce que c'est notamment à partir des années 80 qu'on a vu vraiment le pourcentage de femmes diminuer.
Donc, est-ce que vous voulez dire que les PC étaient accaparés par des hommes dans les familles ?
Voilà, c'est un peu la ce qui ressort de l'étude, ce serait que les ordinateurs sont achetés dans le foyer, sont plus utilisés par éventuellement les hommes et puis les garçons.
Alors là, on parle bien sûr en statistiques. Ouais. Dans les faits, il y a quand même beaucoup de filles, de femmes qui utilisent l'informatique.
Oui.
Mais il y a de quoi quand même se préoccuper par cette situation, hein, qui a des effets à tout niveau. Hein. Ça peut même être des effets d'ordre sociologique, d'ordre de la maîtrise des outils et de la liberté, d'une certaine manière.
Oui. Alors, nous, on fait quand même une distinction entre l'informatique qui est utilisée comme un outil, où là, par contre, surtout chez les jeunes, on voit que les filles, les garçons ont tous un smartphone, passent tous beaucoup de temps, certains diront même trop, devant l'écran, mais en tant qu'utilisateurs des outils. Et nous, on se place plutôt en tant que concepteurs des outils. Donc, tous les métiers de l'informatique qui touchent à donc, la création.
Donc, la programmation, c'est quelque chose que vous amenez à mieux maîtriser. Enfin, vous donnez des bases de formation au langage de programmation. Donc, on a connu différents langages. Hein. Quels sont les langages que vous avez sélectionnés ? Pourquoi cela ? Et qu'est-ce qu'ils peuvent amener de plus que le basique ou des choses comme ça, par exemple ?
Le choix du langage de programmation, ça, c'est un grand débat entre enseignants. Et d'une université à l'autre, d'un enseignant à l'autre, il va y avoir des goûts différents pour les langages. Donc, en première année de licence. Donc, on a une UE d'informatique qui est destinée à tous les étudiants qui suivent le parcours sciences exactes et sciences de l'ingénieur, qui s'appelle abrévié CESI. Cette UE, elle est aussi ouverte aux étudiants de masse, donc mathématiques appliquées au sens social ou quelque chose d'approchant. Et PEIP, c'est les prépas à l'école polytech. Donc cette UE, elle est partagée par tous ces étudiants. Et on a choisi le langage de programmation Python. Ça fait maintenant au moins 4 ans qu'on utilise ce langage, parce que déjà, il est simple à appréhender. En fait, la syntaxe est simple, c'est vraiment très proche du langage anglais, alors qu'il y a des langages où des fois il faut... la syntaxe est plus compliquée, donc il faut plusieurs lignes pour obtenir un résultat, alors que là, quelques lignes souvent suffisent. Et donc c'est ça, entre autres, qui nous a attirés dans ce langage.
Donc il existe de nombreux langages, bien sûr. Est-ce qu'on peut dire que la formation a un ou plusieurs langages donne globalement des compétences pour en aborder d'autres?
Oui. Alors, il y a des principes de base de la programmation que l'on peut apprendre plus ou moins dans n'importe quel langage, même s'il y a des langages spécifiques qui ont une syntaxe spécifique. Mais voilà, la grande majorité des langages vont suivre des grands principes de base. Donc ça, on peut les apprendre dans un langage et après le transférer dans un autre. Il faut apprendre la syntaxe spécifique de chaque langage. Donc ça, c'est ce qu'on apprend en première année, les principes de base. Et comme ça, après, on considère que les étudiants, s'ils ont bien intégré ces principes de base, ils peuvent s'adapter à d'autres langages.
Alors, c'est vrai que l'apprentissage du langage de programmation, ça peut paraître comme ça un peu théorique, mais... L'objectif, c'est forcément de réaliser un objet, avoir un projet et arriver au bout de ce projet avec une réalisation dont on peut être fier. Quelque part, ça valorise.
Oui, c'est ça. Ce qu'on a remarqué, c'est que effectivement, les étudiants en général, enfin les élèves, quand ils arrivent à l'université, ils n'ont jamais programmé. Alors, ça devient de moins en moins vrai parce que petit à petit, ils sont introduits en technologie et en mathématiques dans les programmes de la programmation, donc en collège un petit peu et au lycée. Donc, les étudiants commencent maintenant à arriver à l'université avec quelques notions de la programmation à le connaître, mais... Les promotions qu'on a eues jusqu'à il y a quelques années, beaucoup découvraient l'informatique à l'université et se rendaient compte que finalement, ce n'était pas quelque chose d'austère à être devant son écran, à écrire dans un langage obscur, c'est créer quelque chose. Et c'est surtout, c'est souvent ça qui fait le déclic auprès des jeunes, se dire « mais finalement, c'est l'informatique que je veux faire comme métier ». C'est parce qu'on se rend compte que on crée quelque chose à la fin, un programme, et que il n'y a pas une façon d'écrire un programme en fait. Donc chacun est libre de aller comme il veut vers l'objectif final qu'on s'est fixé. Je ne sais pas, programmer une calculatrice, un petit jeu ou quelque chose comme ça. Il y a plein de façons différentes de le faire, et donc chacun est le propre concepteur de son programme.
Donc effectivement, ça donne l'idée qu'on peut utiliser l'informatique pour réaliser des objets qui peuvent être drôles, qui peuvent être sympathiques, qui peuvent être utiles.
Oui, c'est ça. On peut améliorer son quotidien en fait en utilisant l'informatique pour simplifier la vie et faire des petites applications qui nous permettent d'aller plus vite pour faire certaines choses ou même s'amuser, hein, ça dépend.
Voilà, donc en fait, le plaisir vient en pratiquant et en ayant aussi goûté aux joies de l'accouchement de l'objet.
Oui, on peut dire ça comme ça. Et j'en profite pour parler d'une initiative qu'on a faite, qui est des ateliers de programmation qui sont proposés en collège et lycée. Et là, la programmation, on la présente sous le biais de la création d'une œuvre numérique, c'est-à-dire que avec un langage de programmation, on peut aussi créer un dessin, donc en plaçant des cercles à certains endroits, des couleurs, et aller plus loin pour pouvoir animer ce dessin ou le rendre interactif. Donc c'est aussi une autre version de la programmation, ça peut être aussi un vecteur de création d'œuvres.
C'est vrai que L'art en général, enfin l'art actuel, hein, est de plus en plus accueillant pour les techniques informatiques et pour la réalisation d'objets en 3D, animés, etc. Et il y a de grandes écoles aussi dans la région qui préparent à ça. Peut-être qu'aussi on peut orienter des jeunes et des filles notamment vers ces métiers qui sont intéressants, même financièrement.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que... La programmation maintenant est présente dans tous les métiers et donc on peut aussi aborder, enfin avoir un apport du numérique aussi dans l'art et donc avoir une autre vision de l'art via le numérique.
J'ai lu un rapport sur les prix, les salaires médians dans différents secteurs. Si on va par exemple dans la restauration rapide, le salaire médian sont très faibles. Et quand on va dans l'informatique, dans des grandes sociétés, pour les filles comme pour les garçons, je pense qu'il n'y a pas forcément de différence de traitement. On est sur des salaires qui sont importants. Est-ce que vous avez constaté vous aussi cet intérêt économique pour des métiers de l'informatique et notamment pour les filles? Est-ce que vous voyez, vous, des différences de traitement entre les femmes et les hommes dans ces métiers?
Alors, j'avoue, je ne regarde pas en détail les salaires de sortie de nos étudiants, mais c'est vrai que les salaires sont plutôt élevés. Et j'ai une collègue qui avait regardé et elle avait constaté que même il pouvait y avoir des salaires plus élevés pour les filles que pour les garçons. Moi, je l'expliquerais justement parce qu'il y a peu de filles dans nos filières et que donc les entreprises qui veulent de la mixité dans leur équipe peuvent éventuellement favoriser le recrutement d'une fille en faisant une proposition de salaire intéressante.
Alors, c'est vrai que la notion mixité des équipes professionnelles, je ne parle pas des équipes pédagogiques ni des étudiants, c'est quelque chose qui est intégré par un bon nombre d'entreprises valorisantes. Par exemple, les travaux publics. On a reçu ici un ingénieur chercheur spécialisé dans le chantier 4.0, quelque chose comme ça, et qui définissait, lui, que dans son équipe, il a choisi une parité parce que dans la réalisation de projets, il avait besoin non seulement des compétences, mais aussi de la vision homme-femme à égalité.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les slogans qu'on entend, c'est « Pourquoi se priver d'une moitié de l'humanité ?» Les utilisateurs des logiciels sont pour moitié des utilisatrices. Et donc, si on conçoit des logiciels avec simplement une vision masculine, eh ben, on se prive aussi d'opinions qui peuvent changer, varier entre un homme et une femme.
Donc on peut imaginer que développer les projets industriels, hein, ça passe aussi par mettre de nouveaux projets en phase avec la psychologie féminine. Est-ce qu'on peut déterminer déjà qu'il y a une psychologie féminine ? Vaste débat.
Oui. moi, je dirais pas la psychologie féminine, mais la sensibilité féminine. Et donc, proposer, oui, des logiciels qui répondent aux besoins des uns et des autres.
Et à leur centre d'intérêt.
Voilà.
Voilà. Donc, l'avenir est, j'espère, davantage aux femmes dans ces domaines comme dans d'autres. La parité, c'est quelque chose... c'est une notion, on ne peut pas toujours quantifier en disant il faut, comme sur les listes électorales, autant. Je pense que c'est difficile, même dans les admissions à l'université, on ne peut pas sélectionner comme ça. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait moins de filles que de garçons d'une manière naturelle à l'université.
Alors, l'université, globalement, ça doit s'équilibrer, mais dans les filières scientifiques, il y a moins de filles, ça c'est clair. Et l'informatique fait partie des filières où il y a peu de filles. Au début, donc vers 2013-2014, quand on a commencé nos actions, selon les formations, c'était 10-15%. Là, ces dernières années, on a réussi à monter autour de 20%.
Et est-ce que les nouveaux outils de, on va dire, sélection, hein, d'entrée à l'université, puisque maintenant il y a ça, prévoient justement de favoriser un certain nombre de, un pourcentage suffisant de filles dans vos métiers? Est-ce qu'elles pourraient éventuellement, pour une fois qu'on ne critiquerait pas un nouveau logiciel, dire qu'il pourrait au moins servir à ça?
À ma connaissance, ça ne fait pas partie des critères possibles.
Bon, donc le cahier des charges a été mal fait, c'est ça?
Ah, je n'ai pas dit ça parce que, pareil, ça c'est un débat entre enseignants de savoir si on doit introduire ce qu'on appelle des quotas, mais c'est vraiment un mot que je n'aime pas. Donc essayer de forcer un peu sur le recrutement en mettant... plus de filles par des moyens ou par un autre. Moi, ce que je préfère, c'est de sensibiliser les collègues au fait que c'est important qu'il y ait de la mixité dans nos formations. Et donc, il faut être attentif et bienveillant au dossier des jeunes filles, mais pas avoir des moyens, on va dire, détournés pour augmenter les pourcentages.
Donc, Maude Pupin, vous organisez pour les jeunes filles des ateliers, des sensibilisations, des formations sur, on l'a dit, des langages de programmation. Comment ça se passe concrètement? Ça se passe au lycée et encore après ou...
On a plusieurs actions parce que notre idée, c'est que... comme je l'ai déjà dit, en fait, pour l'instant, la programmation est méconnue des jeunes, en général. Avant qu'ils arrivent dans les études supérieures, ils en font peu. Alors, petit à petit, et ça, c'est aussi un combat des informaticiens en général, c'est enfin, des enseignants en particulier, de se battre pour que dans les programmes de collège et de lycée, il y ait de la programmation qui soit introduite pour que, justement, déjà, toute la population connaisse un petit peu l'envers du décor. Et aussi pour que les futurs étudiants puissent choisir en connaissance de cause leur filière. Donc nous, du coup, on essaye de communiquer auprès des jeunes et de montrer ce que c'est que la programmation. Et notre action phare mise en place à partir de l'année scolaire dernière, c'est les ateliers qu'on a appelés « Elcode, Elcré ». Donc, ils sont. L'année dernière, on a proposé dans. Alors, c'est une petite échelle, mais dans 3 collèges de Villeneuve-d'Ascq. Et je vais vous expliquer pourquoi on a fait ça à une petite échelle. C'est parce qu'on voulait, donc là, s'adresser aux jeunes filles. Et donc, on a fait des ateliers ouverts uniquement aux jeunes filles et encadrés uniquement par des étudiantes, donc des jeunes femmes, de notre université. Et donc, il fallait que nos étudiantes puissent partir du campus et aller dans les établissements sur le temps du midi et revenir pour suivre leurs cours normalement. Ce qui fait qu'on ne pouvait pas intervenir à longue distance. Donc du coup, on a fait ça dans 3 collèges de Villeneuve-d'Ascq. Et on a eu, l'année dernière, je pense, une cinquantaine d'élèves qui ont participé. Et cette année, on l'a étendu à... l'année dernière, c'était 2 collèges. Et cette année, on l'a étendu à 3 collèges de Villeneuve-d'Ascq. Un lycée et un autre lycée de Villeneuve-d'Ascq et un autre sur Lille.
Alors, il y a énormément de collèges et de lycées dans la région des Hauts-de-France. Est-ce que vous pensez que cette initiative peut se développer en fonction peut-être de quel public, des zones prioritaires ou pas de l'éducation nationale?
Donc nous, le développement sur la métropole, par exemple, il est difficile à organiser si on reste sur la même, le même schéma, c'est-à-dire vraiment des étudiantes de nos formations qui partent, qui encadrent ces ateliers de programmation. Après, on est ouvert si par exemple, il y a des entreprises qui veulent organiser des ateliers dans les établissements à côté de chez eux. on est prêt à leur fournir tout le matériel, parce que de toute façon, c'est en ligne, les supports pédagogiques. Donc, on est prêt à leur fournir le matériel et le format que l'on a mis en place pour qu'ils puissent intervenir. Et ce qu'on fait aussi, c'est qu'on est en contact avec des collègues d'autres universités. On promeut ça au niveau national pour voir si ça ne peut pas être mis en place ailleurs, autour des universités de France.
Est-ce que les professeurs qui sont en collège ou en lycée peuvent vous solliciter ? Est-ce qu'ils peuvent aussi être accompagnés dans un plan académique de formation, par exemple ?
Oui, les professeurs peuvent nous solliciter. Après, on verra donc dans quelle mesure on peut répondre à leurs demandes. Par exemple, il y a des gens de... Je vais avoir oublié, mais d'une ville assez éloignée de la métropole qui nous ont demandé, on va réfléchir à comment on peut mettre en place quelque chose. Par exemple, plus intervenir sur les temps de midi, mais faire une après-midi de temps en temps. Donc ça peut être une solution pour pouvoir répondre aux besoins. Et par rapport au plan académique de formation, sur cette action-là spécifiquement, on n'offre pas de formation parce que on ne veut pas que ce soit encadré par des enseignants, mais justement par des informaticiens, soit dans les cursus universitaires, soit éventuellement des professionnels, mais des gens qui peuvent témoigner des métiers pour avoir une autre relation avec les élèves.
Est-ce qu'en fin d'année, universitaire, scolaire, comme vous le voulez, des réalisations pourraient être mises à l'honneur, par exemple faire un petit prix ou un concours de ce qui était plus abouti, plus intéressant ?
Oui et non. Concrètement, on a fait à chaque fois, donc cette année et l'année dernière, ce qu'on a appelé une exposition des œuvres faites par les élèves. Donc ça s'est passé à l'université. On a réuni les élèves de tous les établissements pour qu'ils présentent, pour qu'elles, puisque c'est que des filles, pour qu'elles présentent leurs œuvres. Mais on n'a pas fait de concours parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait un jugement sur ce qui a été fait. Donc voilà, c'est un vernissage qui donc est fait à l'université, qui est ouvert à tous ceux qui sont intéressés pour venir voir.
Mais l'année prochaine, peut-être qu'on pourra parler de cette exposition un peu avant.
Exactement, oui.
Bah écoutez, merci donc Madame Pupin. Je rappelle que vous êtes maître de conférences en informatique à l'Université de Lille et donc aussi intégrée au Labo Cristal. Peut-être on peut en dire quelques mots de ce labo.
Oui, donc Cristal, c'est le centre de recherche en informatique, signal et automatique de Lille. Donc il regroupe des informaticiens et des automaticiens. Et on a différents domaines de recherche autour de ces thématiques.
Voilà, bien sûr, merci pour votre intervention. Et puis on souhaite bon vent à vos projets, et puis une bonne réussite aux filles aussi. Une dernière info, bien sûr.
Oui, parce que en fait, j'ai pas eu l'occasion de parler précisément des bourses informatiques au féminin.
Allons-y.
Donc, pour les jeunes filles qui sont en études de la première année à la troisième année à l'université de Lille, donc elles soient en formation d'une licence informatique, donc de saisie vers la licence informatique, en formation Polytech ou en formation IUT, elles peuvent candidater à une bourse informatique au féminin. C'est 4 000 euros par an, subventionnée par des entreprises qui, après, marrainent l'étudiante pour lui faire découvrir les métiers de l'informatique.
Ben c'est intéressant.
Voilà. Donc voilà, si vous voulez suivre des études d'informatique à l'université, vous cherchez, vous tapez sur Google informatique au féminin, Université de Lille, et vous trouvez des informations sur cette bourse.
Eh bien, merci pour toute cette information et pour vos explications sur ces initiatives prises en région, dans notre Université de Lille, depuis au moins 2013.
Voilà, c'est ça.
Très bonne journée.
Merci. Au revoir. Au revoir.